Metro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente
Sud Radio, place du marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud.
Bonjour à tous les amis, on est comme on dit délocalisé ce matin pour ce Place du Marché. Alors Place du Marché, bah, c'est la place du café ce matin, c'est un marché du café parce qu'on est au Paris Coffee Show, au parc floral de Vincennes, enfin de Paris, et on est entouré d'amoureux du café, ça fait plaisir, d'ailleurs ça sent bon quand on se balade dans les allées du salon parce que ça torréfie de tous les sens. Et je suis avec Églantine Loire qui est la déléguée générale du collectif café. Bonjour Églantine.
Bonjour Vincent.
Bienvenue chez vous. Et Vincent Ballot, un de nos trois MOF, meilleur ouvrier de France, torréfacteur, nouvelle catégorie du MOF. Bonjour Vincent.
Bonjour Vincent, ravi d'être là.
Bah, moi aussi, je suis ravi d'être là avec vous deux. Alors Églantine, d'abord, ce salon, il est à l'initiative du collectif café, dont je disais à l'instant que vous êtes la déléguée générale. Qu'est-ce que c'est le collectif café ?
Le collectif café, c'est une fédération patronale qui représente l'ensemble de la filière café, du grain à la tasse, c'est-à-dire les importateurs, les torréfacteurs, les coffee shops, les baristas, qui défend leurs intérêts et qui les représente et qui organise donc depuis 33 ans un salon qui était exclusivement professionnel, qui cette année est sous un format nouveau, qui a évolué, qui est donc le Paris Coffee Show au Parc Floral, comme vous l'avez dit, qui réunit en fait l'ensemble des amateurs de café et les professionnels également.
Donc c'est la première fois qu'on mélange les professionnels et les amateurs dans le même lieu.
Tout à fait.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a une maturité du marché du café qui le permet ?
Il y a une maturité du marché du café, il y a une évolution du café, il y a une évolution des goûts et des consommations de café, et l'idée est justement de faire découvrir et redécouvrir le café, le métier de torréfacteur et l'ensemble des hommes et des femmes qui sont dans la filière café à l'ensemble des consommateurs, que ce soit des professionnels ou des particuliers.
Avant de demander à Vincent Ballot son expertise, hein, puisqu'il est meilleur ouvrier de France, torréfacteur, on va parler produits bien entendu avec lui. Est-ce que vous avez été voté ce matin, madame, monsieur ?
Alors étant sur le salon, j'ai donné ma procuration, donc oui, j'ai voté.
Bravo, c'est bien. Et vous, Vincent ?
Ah oui, j'ai voté, je crois en l'Europe, et l'Europe du café est aussi ici.
Il y a une Europe du café d'ailleurs, parce que le goût il est très différent, hein, qu'on soit en Suède, en Italie, en France, en Pologne.
Il y a une Europe du café, effectivement, les goûts sont différents, on consomme de manière différente. Les Finlandais consomment 12 kg de café par an, les Français 5 kg, les Italiens 4, effectivement. Mais il y a quand même une Europe et on se retrouve tous autour de la tasse en Europe.
Oui, mais il n'y a pas un goût européen, en revanche. On sait que les Italiens, ils aiment bien le café plus torréfié, moins décombonné dans le Nord.
C'est vrai qu'il y a des méthodes d'extraction plutôt différentes. On est plutôt sur des extractions expresso pour le sud de l'Europe, des extractions plutôt plus douces pour le nord de l'Europe. Mais en tout cas, il y a une vraie Europe du café.
Alors, cette petite digression européenne due à la journée d'élection, bien entendu. Églantine Loire, j'ai une question qui me taraude. Est-ce que le café fait sa révolution ? Parce que c'est un peu l'objet aussi de cette émission. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de vivant, il y a un ferment, ça pousse quoi, dans le monde du café.
C'est tout à fait ça, ça évolue. Je pense que les consommateurs apprécient de plus en plus les bons produits et les bonnes choses. Et c'est aussi un des rôles du collectif, justement, c'est de mettre en avant ses adhérents, de mettre en avant l'ensemble de la filière. Et justement, le but aussi de cet événement qui évolue, c'est de faire découvrir et redécouvrir le café et l'ensemble des métiers de la filière.
Alors, par rapport à l'habitude, aux éditions précédentes où c'était purement professionnel, donc on imagine une sorte de colloque, hein, en tout cas un salon de rencontre entre les acteurs de la filière, mais on voit aussi bien des fabricants de percolateurs et de machines à café, de filtres, que de produits autour du café et évidemment des torréfacteurs. L'apport du public, c'est quoi ? Qu'est-ce que le public va faire en plus ? Comment est-ce qu'il intervient ? Comment est-ce qu'il rentre dans ce monde du café ?
La grande différence, c'est que cette année, on accueille des torréfacteurs qui exposent également, alors que sur le format exclusivement professionnel, les torréfacteurs étaient les visiteurs. Ce qui permet justement d'aller à la rencontre des torréfacteurs, de découvrir justement toute cette filière pendant l'événement.
Bon, hier, ça s'est formidablement passé. J'étais déjà là à traîner dans les allées. Aujourd'hui, bah, ça démarre bien en ce dimanche matin et c'est jusqu'à demain soir.
C'est jusqu'à demain soir, tout à fait.
Alors, Vincent Ballot, voilà un homme qui est un expert du café, on est d'accord, Églantine ?
Tout à fait.
Un expert, on en a besoin. Moi, j'aime bien les MOF, comme on dit, les meilleurs ouvriers de France. Et je vous avais d'ailleurs identifié à Bordeaux, hein, le jour de votre finale.
Exact, ouais, c'était presque une interview pas curseur, je ne sais pas si ça se dit.
Vous en meniez pas trop large à l'époque.
On ne faisait pas le malin du tout et on ne le fait toujours pas d'ailleurs, puisque c'est un titre qui oblige, même s'il est fabuleux et qui donne beaucoup de fierté, c'est un titre qui oblige. On ne faisait pas les malins, mais aujourd'hui, on est content effectivement d'arborer ce col bleu blanc rouge pour la filière, pour le café, grâce au collectif café, puisqu'il ne faut quand même pas oublier que c'est grâce au collectif café que le COETMOF a décidé de rendre la torréfaction identifiée dans ces professions qui peuvent être lauréatisées, si on peut dire, si je peux inventer un mot, par le métier et le diplôme de meilleur ouvrier de France.
Alors vous êtes torréfacteur dans une belle entreprise en Haute-Saône, en Franche-Comté. Alors vous savez ce qu'ils disent les esprits chagrins? Ils disent oui, mais c'est parce que comme sa femme, elle a l'écharpe blanc rouge, il voulait avoir le col pour s'assortir. Il faut dire que votre femme est députée.
Exactement, et c'est vrai qu'elle avait mis la barre très haut il y a 2 ans. Elle est effectivement députée à l'Assemblée nationale, une fonction magnifique. Ma fille avait été élue aussi Miss Haute-Saône à l'époque. Donc les filles avaient mis la barre très haut et effectivement les garçons, moi et mes deux fils, on s'était dit il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Et voilà, est arrivé ce qui devait arriver. Je porte aussi une écharpe. J'ai aussi celle de mère, mais ça c'est une autre histoire. Mais j'ai aussi maintenant le col tricolore, donc j'ai voulu me venger quelque part un peu.
Ah bah, fier d'être français là, dans la famille Ballot, hein, c'est dingue. Hein. Alors, parlons un petit peu du produit. Vous avez donc obtenu ce diplôme de meilleur ouvrier de France après des épreuves difficiles, très très composites d'ailleurs, hein, où il faut montrer toutes ses qualités dans différents secteurs.
Absolument, c'était 6 épreuves incroyables. Ça allait de la dégustation à la torréfaction, en passant par des épreuves de connaissance du monde du café, de la botanique, un peu même de mathématiques avec un calcul de rentabilité sur une tasse, et puis des mises en situation professionnelles comme expliquer pourquoi effectivement il est plus intéressant, ou en tout cas plus en vogue, de travailler sur du grain plutôt que de travailler sur des machines à dosette par exemple.
Par exemple, au hasard. Et alors là, je vous vois en définitive déambuler. Je me disais, il va être hyper actif, Vincent Ballot, c'est quand même une locomotive pour la profession, c'est un peu une égérie, je vois bien des jeunes filles qui passent, qui ont l'œil, qui ont la larme à l'œil de vous voir. Hein.
Oui, non, mais c'est un salon avant tout pour nous professionnels, pour effectivement se montrer, parce qu'il faut montrer que le métier du café, les métiers de la torréfaction sont importants, que c'est une filière. On arbore effectivement cette tenue, cette tunique col bleu blanc rouge, mais on est là aussi pour regarder, écouter et sentir ce que veulent nous dire aussi les consommateurs, parce que c'est quand même de là que viennent les tendances aussi. On est là pour entendre, écouter ce que veut nous apporter le consommateur.
Vincent Ballot, si je dois boire un café aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez goûté hier que vous me conseilleriez?
Ouais, j'ai goûté des cuppings intéressants sur les derniers arrivages d'Éthiopie.
Quoi des cuppings, c'est quoi le cupping?
Le cupping, c'est l'art de déguster, qu'on va l'appeler à la brésilienne, hein, de manière assez simple, assez épurée, en faisant une décoction de café moulu dans de l'eau chaude. Cupper un café, c'est le déguster dans une tasse, et c'est un moyen effectivement...
C'est communément admis. Hein.
C'est communément admis et c'est utilisé partout dans le monde pour avoir à peu près un référentiel commun partout avec les producteurs et les consommateurs. Et donc c'est très important. Et donc on a cupé hier des cafés éthiopiens qui viennent d'arriver, qui sont magnifiques. On a cupé aussi des Colombies, intéressants. Et puis quelques assemblages aussi de différentes origines qui donnent un équilibre parfait dans la tasse.
Attendez, excusez-moi, je n'en reviens pas. Une collègue, une consoeur, c'est Trina Magdine de Sud Radio là qui se pointe. Trina, je ne savais pas que tu aimais le café.
Non mais déjà j'aime le café, mais je sais qu'il y a ta fameuse barre infernale au café. Donc je suis venue exprès, j'ai traversé tout le bois de Vincennes à pied, je te jure que c'est vrai. Il était impossible que je loupe ça.
Je sais ce qu'il faut te demander à toi, c'est l'avenir du café.
Ah bah pour ça, alors tu sais que j'ai des spécialistes dans mon émission.
Faut que je t'appelle.
Ah oui, 0826-300-300, tu connais le numéro, non?
L'après-midi à 16h, oui, je sais bien. Eh bah écoute, tu crois pas si bien dire, parce que je me suis intéressé au sujet, j'ai interviewé quelqu'un que tu connais. Écoute plutôt, ouais, écoute.
Alexandre, aujourd'hui c'est le Paris Coffee Show, donc on ne parle que café. Et alors vous, votre spécialité c'est la divination, hein, c'est lire l'avenir. Est-ce qu'on peut le faire dans le marc de café?
Oui, exactement. Et cette pratique, on l'a fait depuis le XIIe siècle. Elle est arrivée en Allemagne et en Hongrie à peu près vers le XVIIIe siècle.
En même temps que le café?
Oui, oui, oui. Et cette pratique fonctionne très très bien. On peut lire dans le marc de café.
Aha, On peut lire dans le marc de café, donc. Mais ça demande un apprentissage. Est-ce qu'il y a certaines régions du monde où c'est plus pratiqué que dans d'autres ?
Généralement au Moyen-Orient, où là, en Turquie, on le fait très régulièrement. Mais vous, si vous avez des personnes que vous connaissez autour de vous et qui savent le faire, aucun souci.
Alors moi, ça ne m'étonne pas que vous disiez en Turquie, parce que le café turc, il est bouilli avec son marc. Et donc, c'est un peu le résidu qu'on verse dans une soucoupe, c'est ça, pour lire en fait l'avenir.
Exactement. En fait, il faut faire bouillir de l'eau pendant une minute avec du café, de la poudre de café. Et ensuite, il y a une technique de retourner le café sur une soucoupe. Et là, c'est en fonction des symboles, des formes qu'on va pouvoir être dans une divination.
Ça veut dire que, alors, si j'extrapole un peu, c'est un peu comme le test de Rorschach. C'est-à-dire, on lit dans les tâches. Hein, ça fait des formes, ça fait. Il n'y a pas des images qui apparaissent. C'est évidemment une interprétation d'une certaine symbolique. Ça s'apprend, ça ?
Oui, et puis d'ailleurs, il y a plein de pratiques dans la divination, hein, que ce soit avec les tarots, la boule de cristal. Aujourd'hui, il y a plein de moyens pour pouvoir lire l'avenir.
Il vaut mieux de l'arabica, du robusta, un mocha, un Costa Rica, ça n'a pas d'importance ?
Ça n'a pas d'importance, suivant vos goûts.
C'est selon les goûts. En fait, c'est selon le café qu'on aime, ça veut dire qu'on boit d'abord le café et ensuite on regarde dans le marc.
Exactement, mais le principal, c'est de connaître notre avenir, est-ce qu'il va être bon ou pas.
Ouais, et puis là encore, il y a un truc qui est bien, c'est que dans cette société qui cherche le zéro déchet, là pour une fois, on valorise le marc de café.
Toujours avec Églantine Noir, délégué général du collectif Café. Vous ne lisez pas dans le marc de café, vous ?
Non.
Non, non. Et Vincent Ballot, meilleur ouvrier de France, torréfacteur, vous ne lisez pas non plus dans le cupping ?
Je ne lis pas dans le cupping, mais le marc de café, effectivement, peut être utilisé pour un tas de choses, le compost.
Moi, je le mets dans mes fleurs. Hein.
Dans les fleurs, on peut en faire même un produit cosmétique. On fait des gommages magnifiques avec le marc de café. Et ça peut être, on peut faire des champignonnières aussi, mais effectivement, la notion de recyclerie, de recyclage, de compostabilité est quelque chose de très important.
Très bien, vous l'avez compris, tout de suite après la pause, on fait spa ici sur le Paris Coffee Show. Et c'est Vincent Ballot, meilleur ouvrier de France, qui vous fera le gommage. Alors venez en maillot de bain et puis pas salissant, hein, tant qu'à faire. Merci beaucoup madame, merci beaucoup monsieur. On se retrouve tout de suite après la pause.
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente...
Sud Radio, Place du Marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud.
Nous voilà de retour au Paris Coffee Show avec une succession d'amoureux du café. Invités pour une part, bonjour Pierre Hermé, amoureux du café.
Bonjour Vincent Ferniaud.
Et Hippolyte Courty de l'Arbre à Café qui lui est, on peut dire, on dit caféologue, c'est-à-dire l'expert en café.
On dit caféologue. Bonjour Vincent Ferniaud.
Alors si j'ai voulu vous avoir ensemble, c'est pour une raison simple. D'abord parce que... Comme beaucoup ici, vous êtes des amoureux du produit, de ces produits que sont les cafés, parce qu'on ne peut pas parler d'un café. Mais surtout, c'est parce que c'est Hippolyte Courty qui a un peu inoculé le virus à Pierre Hermé.
Absolument, c'est Hippolyte qui m'a fait découvrir la profondeur de l'univers du café, qui très souvent dans la gastronomie s'arrête à choisir des origines, mais le café c'est... Bien sûr des origines, mais c'est bien plus que ça surtout. Et il y a tout un savoir-faire, une sensibilité et un plaisir autour du café.
Un plaisir certainement et qui remonte parfois loin dans l'enfance. Moi je sais que c'était le canard, le fameux sucre que je trempais. C'était le seul café que j'avais le droit de prendre et puis j'étais trop sensible à l'amertume quand j'étais gosse. C'est souvent un peu l'écueil d'ailleurs, c'est souvent ce qui freine les enfants à aimer le goût café, non Hippolyte ?
Oui, mais alors moi qui suis un grand lecteur de Goscinny et du Petit Nicolas, on voit dans toutes les pages, dans toutes les histoires du Petit Nicolas, qu'il doit finir son café. Donc il buvait du café. Mais aujourd'hui, on a la chance justement d'avoir des cafés qui ne sont plus aussi amers qu'avant, voire pas du tout amers. Donc ils peuvent plaire aux enfants. Et avec une torréfaction adaptée, on peut même avoir une sensation beaucoup plus sucrée, douce qu'amère.
Oui, c'est vrai que Le café pour les enfants, en général, ça passe d'abord par la pâtisserie, hein, d'où l'intérêt du travail. D'ailleurs, cette pâtisserie, c'est pas seulement l'ami des pâtissiers, le café. Il faut dire que le café a été assez maltraité par les pâtissiers dans le passé.
Disons que on a souvent utilisé pour parfumer au café du café soluble avec de l'extrait naturel de café.
C'est ce que faisait tout le monde, ça. C'est comme ça qu'on l'apprenait aussi.
C'était un usage. Et petit à petit, j'ai cherché à retrouver les arômes du café, la subtilité du café. Et donc, je me suis intéressé à différentes méthodes d'infusion, de mouture qui permettent justement d'en extraire le meilleur.
Et ça date pas d'hier, hein, parce qu'aujourd'hui, le café fait un peu sa révolution. C'est vrai que de plus en plus de jeunes torréfacteurs arrivent sur le marché, on s'y intéresse de nouveau. Mais vous, ça fait une dizaine d'années en fait que vous avez fait votre révolution du café, Pierre Hermé.
En fait, ce à quoi on s'intéresse aujourd'hui, ça s'appelle le café de spécialité. C'est ce qui distingue l'univers du café et du café industriel. Donc, effectivement, aujourd'hui, il se développe à la fois un savoir-faire autour du café et qui est enseigné. Aujourd'hui, il y a un vrai savoir-faire, il y a un métier qui s'appelle barista. Je sais pas, on n'a pas encore trouvé le terme français, mais en tout cas, c'est un métier qui est très proche de celui du métier de pâtissier parce que c'est un métier où on est méthodique, précis, organisé et où on ne laisse rien au hasard.
De manière à retrouver le goût que l'on recherche au résultat. Hein, parce qu'autrement, il y a tellement de paramètres aléatoires qu'il est difficile de revenir 3 jours de suite dans un café et d'avoir le même goût de café, Hippolyte.
Alors, si, ça dépend de la qualité des baristas que l'on a et qui préparent le café. Mais l'une des joies du café, c'est effectivement son aspect très évolutif. Et puis l'une des joies et des expertises du barista, c'est justement de réussir à faire quelque chose de constant et de régulier.
Allez, je vais faire un petit peu le balourd en café. Je le suis moins que ce que je prétends. Mais aujourd'hui, je vais vous poser une question simple. Est-ce qu'on a le droit encore de boire du Robusta ? Aidez-moi ça.
Alors, moi, je suis depuis toujours un fervent défenseur de la diversité. À partir du moment où vous jugez un produit hors cadre, c'est-à-dire sans vous accorder, sans vous porter une attention à la qualité objective, alors vous êtes dans un jugement esthétique. Et vous pouvez effectivement aimer ça, ne pas aimer autre chose, etc. etc.
C'est quoi le goût du Robusta globalement par rapport à l'Arabica que tout le monde prône ?
La révolution du Robusta est en train d'arriver, est en train de commencer.
Ah, des nouveaux Robusta ?
Des Robusta de spécialité, effectivement, c'est-à-dire qui bénéficient du même soin que l'on donne à l'Arabica de qualité.
Parce que jusque-là, le Robusta, vous me dites si je me trompe, c'était un peu le café de l'industrie, hein, du café, parce qu'on recherchait des, on va dire, notamment la caféine, ses qualités d'excitant, en tout cas, c'est ce qu'on avait dans le Robusta, et alors que l'Arabica, on était plus sur l'arôme.
Alors effectivement, le Robusta apporte dans tous les mélanges de la rondeur, du corps et de l'amertume.
Et une belle créma.
Et une belle créma, donc qui est formidable pour tous les gens qui font mal l'espresso, parce qu'on a, une tasse avec de la créma au final, pratiquement quel que soit le service.
La créma, je le dis pour ceux qui ne savent pas, c'est la mousse, hein, cette mousse colorée qui est en surface de l'espresso.
Exactement, et qui flatte l'œil et donc qui donne envie de boire l'espresso. Donc c'est ça, les arômes typiques du Robusta dans son état actuel, c'est quoi ? C'est le caoutchouc, c'est le terreux, c'est le brûlé, c'est le fermentaire.
Ça devrait pas être chocolaté ?
Ça devrait pas être chocolaté, ça pourrait être chocolaté. Mais comme il est très maltraité parce qu'on l'achète essentiellement pour des questions de coût, eh bien effectivement, il est maltraité et on a un goût qui est fort désagréable. C'est ce pourquoi on a besoin de boire des litres d'eau et de sucrer son café normalement pour le faire passer. Et l'Arabica, lui, a une complexité, même le double de chromosomes par exemple, a une complexité aromatique qui est plus intéressante. Plus importante et puis une acidité aussi plus importante, donc il est un petit peu plus dynamique, plus sapide, il passe mieux en bouche, etc.
plus spirituel.
Mais encore une fois, aujourd'hui on a, il y a une quinzaine, peut-être une vingtaine au grand maximum, de producteurs de Robusta qui se sont dit, comme c'est la crise, comme on ne peut plus faire du Robusta comme avant avec le réchauffement climatique et qu'on monte en altitude et qu'en fait le Robusta prend la place des Arabica qui n'arrivent plus à pousser à moyenne altitude, alors on va pouvoir faire du Robusta de qualité. Et puis, on aime la rondeur, on aime la générosité. Donc, on peut aujourd'hui proposer des assemblages avec du Robusta et qui provoque un très grand bonheur. Mais, encore une fois, c'est extrêmement rare.
Pierre Hermé, on sait l'importance du chocolat dans la pâtisserie parce que c'est un goût qui réunit les consommateurs. Le café est plus segmentant. Est-ce qu'il taille un petit peu des croupières chez vous au chocolat ? Est-ce qu'il prend des parts de marché, comme on dit, au chocolat, le café ?
En fait, le café est souvent prisé par les amateurs. Et il y a des gens qui ne boivent pas de café, mais qui aiment beaucoup les pâtisseries au café. Et donc, c'est vraiment un choix délibéré. C'est pour ça, moi, quand je travaille le café, je ne fais pas de mélange. Je travaille une pâtisserie au café.
Vous faites pas l'opéra, vous ne faites pas chocolat-café.
C'est rare.
C'est très rare. Ou alors, il faudrait vraiment qu'il n'y ait rien d'autre à faire, Pierre Hermé. Pierre, quand on travaille dans le chocolat, parce que, évidemment, vous avez une manufacture de chocolat aussi, on voyage. On voyage, on s'intéresse au sourcing, on va regarder comment les plantations fonctionnent. Est-ce que vous avez fait la même chose pour le café ? Est-ce que vous êtes intéressé ? Vous avez fait du tourisme de café ?
En fait, dans mon métier, c'est pâtissier. Et je me suis adressé à un professionnel du café pour me guider dans l'univers du café que je ne connaissais pas. Donc Hippolyte Courty m'a fait découvrir l'univers du café. Et petit à petit, j'y rentre par le métier, par le sourcing. En fait, je pense que c'est un métier où on a besoin d'être guidé et surtout on a besoin de travailler avec des vrais professionnels, des spécialistes.
Oui, c'est évidemment important. Je crois que c'est ce que dira tout à l'heure Alain Ducasse, que je vais interviewer, puisqu'il lui aussi fait son entrée sur le monde du café. Mais il est bien loin de se considérer comme un spécialiste, plutôt que comme quelqu'un qui sait s'entourer de ceux qui savent faire. Hippolyte Courty, vous, évidemment, c'est très important d'avoir l'oreille d'un pâtissier comme Pierre Hermé pour pouvoir trouver des développements aussi pour les arômes que vous allez sourcer à travers le monde.
Oui, alors c'est vrai qu'à l'Arbre à Café, depuis le début, on œuvre à l'extension du domaine du possible du café. C'est qu'effectivement, comme je n'aimais pas le café il y a encore 15 ans, on va dire, je pense que on peut y trouver énormément d'utilité, d'utilisation au café. Et je parle à l'un des spécialistes justement de l'utilisation nouvelle du café, par le carré de café. Le café, il est formidable. On peut l'utiliser cru, on peut utiliser la fleur, la feuille, le fruit, le grain torréfié différemment avec plein de terroirs. Il y a 90 pays producteurs de café au monde. Donc vous imaginez le nombre de terroirs, des centaines de variétés. Du coup, on est là face à une diversité qu'il faut prendre à bras le corps et utiliser sans aucun tabou. Comme disait Pierre Bourdieu, on peut tout faire sauf n'importe quoi. Voilà.
On peut tout faire sauf n'importe quoi. Ça, c'était un joli mot. Hippolyte, on est dimanche matin. Moi, j'ai envie d'un café tout de suite. Vous me proposez quoi ?
Alors, si c'est un grand dimanche matin, je vous proposerai le Geisha de la Finca Deborah de Jamison Savage.
C'est le Panama, ça ?
C'est le Panama. On est sur un volcan. Pierre Hermé le connaît bien et a rencontré Jamison. C'est le premier Geisha café d'exception cultivé en biodynamie que l'on accompagne justement.
Avec une cerise très pourpre, hein, une cerise très foncée. Hein.
Très foncée et une aromatique qui est proche du thé, de la bergamote, de l'abricot, de la myrtille, de la pêche, du pamplemousse. C'est absolument cristallin et très heureux pour un dimanche matin.
Et si j'entre dans une pâtisserie Pierre Hermé ce matin pour accompagner ce geisha du Panama, qu'est-ce que je vais pouvoir choisir ?
Si c'est dans un café, on pourra choisir un café expresso avec un yapar rouge du Brésil. Et si c'est une pâtisserie, ça pourrait être la tarte au café. La tarte infiniment café.
La tarte infiniment café. On peut rappeler, pour ceux qui ne la connaissent pas, les différentes strates de cette tarte ?
Pâte sablée, classique, mais très bien cuite, bien torréfiée, quasiment. La farine doit être torréfiée. Ensuite, une ganache à base de chocolat blanc infusé au café, donc qui, elle, est plutôt assez puissante. Un biscuit imbibé au café, avec une infusion de café. Et puis, dessus, une chantilly au café, très légère, pas sucrée, Et ça, c'est pour moi ce qui me rappelle le café viennois, lorsque la crème vient imprégner le café.
Ça y est, c'est la façon de Pierre Hermé de faire surnager sa tarte avec la créma. C'est sa créma à lui qui vient couronner. Merci messieurs, on va se quitter quelques minutes. Et bien vous savez quoi ? On va aller interroger Alain Ducasse, hein, ce nouveau venu dans le monde du café. On veut savoir quand même quelles sont ses intentions. Et merci, à tout de suite.
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente...
Sud Radio, Place du Marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud.
Allez, retour dans le Place du Marché très café, parce qu'en marge du Paris Coffee Show, je suis allé rendre visite à Alain Ducasse qui vient d'ouvrir sa manufacture de café. Le café, c'est sa passion, alors j'ai posé quelques questions. Alain Ducasse, beaucoup des gens du monde du café vous voient arriver sur le secteur avec un œil circonspect. Moi, j'ai envie que vous me parliez de votre histoire du café. Elle prend naissance où, l'histoire de l'amour du café pour vous ?
C'est pas l'amour du café, mais j'ai toujours eu un intérêt gustatif pour le goût du café, et incluant d'ailleurs, moi j'ai une petite aventure dans le monde de la pâtisserie, incluant le café dans la pâtisserie. Et je trouvais que plutôt que d'avoir, quand j'ai fait ce petit passage dans la pâtisserie, plutôt que d'avoir des extraits de café qu'utilisent les pâtissiers dans des bouteilles, dans leurs rayons et dans les placards des pâtissiers, il y a toujours des extraits, dont un extrait qui s'appelle Trabli, par exemple. Je préférais déjà prendre des candissoirs. Les candissoirs, ce sont des bacs qui font 40, 60, 5 cm de haut, dans lesquels je faisais des expressos. Je les laissais s'évaporer pour faire moi-même les extraits de café. C'est-à-dire c'est une réduction de café qui permettait de souligner qu'un éclair au café, il soit infiniment meilleur que l'éclair habituel du pâtissier. Donc j'avais déjà envie de capturer le goût du café de manière concentrée, puisque une fois que c'est délayé dans une crème pâtissière, il faut bien qu'il en reste quelque chose. Et pour cela, j'avais imaginé que l'évaporation, c'était mieux que la réduction. L'évaporation, parce qu'il n'y a pas la brutalité de la réduction au feu, de l'ébullition, très clairement, du changement du goût de quand on fait bouillir du café pour le réduire. L'évaporation était la meilleure solution. Mais vous savez, c'est comme dans de nombreux domaines, on apprend tous les jours, et plus on apprend, plus on doit être modeste, parce qu'on s'aperçoit que ce n'est jamais fini. Et le café, j'en fais partout maintenant, à l'étranger. Je fais des tournées de café des spécialités un peu partout dans le monde. Je trouve quand même que le grand défaut majeur aujourd'hui, c'est le goût qu'on a défini avec Veda, mon torréfacteur, c'est...
Le goût unique un peu ?
Non, c'est de torréfier peu. Je trouve que 85 ou 95% des cafés dans le monde sont trop torréfiés. C'est-à-dire, ils ont cette notion de brûler et d'amertume qui me dérange tout particulièrement. Alors peut-être que nous sommes sous-torréfiés. En tout cas, je n'aime pas les cafés sur-torréfiés. Et je trouve que cette tendance de surtorréfaction, le tempo a été un peu donné par le monde anglo-saxon, et pour ne pas les citer, par un très grand du café, et c'est une espèce de goût comme ça qui vient écraser tout, et donc nous nous situons dans un autre registre d'une juste, et je dirais presque d'une sous-torréfaction pour préserver le goût originel de chacune des origines de café.
Oui, mais ce que vous décrivez là, c'est pas ce qu'on appelait le goût italien pour une torréfaction poussée, ou carrément le café turc, ou carrément le goût charbonneux, le goût de brûlure passe au-dessus du goût du café du cru.
C'est pas ce que j'aime, c'est pas le style qu'on va donner à notre manière de faire et de proposer le café. Donc c'est un choix assumé, c'est notre signature, je dirais.
Alain Ducasse, aujourd'hui, on voit partout dans le monde de la chocolaterie, un monde qui vous est sensible aussi puisque vous avez une manufacture de chocolat, on voit partout des chocolatiers vouloir faire ce qu'on appelle du bean to bar, de la fève à la tablette, c'est-à-dire verticaliser, remonter à la fève de cacao. C'est un peu votre démarche avec le café, c'est-à-dire ne pas vous contenter des cafés torréfiés par les autres ou sourcés par les autres et vouloir vous aussi faire votre goût du café à vous.
Si ce n'est pas aisé dans le café, c'est encore moins aisé dans le chocolat, parce que le process entre un sac de fèves de cacao et le bonbon en bout de ligne, il y a quelques étapes. Le café, je n'ai pas dit que c'était plus simple, mais en tout cas, c'est, il y a peut-être plus de risques parce qu'un bonbon, on va le fourrer. Après, la qualité de la ganache ou la qualité des fruits qu'on a dans la ganache, tout ça participe, non pas à dévoyer le goût originel du café, mais en tout cas, de faire un bonbon qui devient, en dehors des tablettes de cru d'origine que nous faisons. Enfin, nous sommes rentrés dedans. Avec passion, avec un très joli succès. Alors, c'est une famille voisine, le café. Ce sont très souvent dans les mêmes latitudes sur la planète que l'on trouve le café et le chocolat. D'ailleurs, on s'est amusé à broyer du café de la même origine que le chocolat pour en faire un produit qui n'est pas 100% café, comme je crois que vous avez pris le soin de faire avec mon ami Pralu, le carré de café. Vous n'allez pas venir nous déranger sur le domaine du chocolat.
Alors, donc, devant nous, cette bouteille d'Oreds, dont on m'a dit quand je suis arrivé, c'est l'eau du chef, donc c'est l'eau qu'il aime. Alors, si je devais dire aujourd'hui, quel est votre cru de café ? Dans tout le choix qui est fait dans le monde, le café du chef aujourd'hui, c'est quoi ? C'est un mocha d'Éthiopie ? C'est un maragogipe de...
Cette semaine, c'est le mocha d'Éthiopie parce que mon cafelier...
Cafelier, c'est quoi ça ?
Cafelier, c'est celui qui sait vous faire partager la passion du café, qui sait le faire, qui sait en parler.
C'est un mot que vous avez créé, ça ?
Oui, c'est un mot cafelier. Oui, et puis en plus, on vient d'avoir l'acceptation comme quoi c'était un mot déposable. Donc, cafelier, c'est un nouveau métier qui m'appartient. Voilà.
Et donc, le cafelier a fait du beau mocha d'Éthiopie. Donc, cette semaine, c'est plutôt celui-là.
Oui, parce qu'il était parfait. Voilà, la torréfaction était parfaite, la mouture était parfaite, le temps de passage, le temps d'extraction était parfait, la température était parfaite. Voilà, j'étais dans un bon moment. C'était là. J'ai plus besoin d'en regoûter. Je serais trop déçu parce que j'ai un défaut, c'est que j'ai mémorisé parfaitement, dans ce temps T, un goût particulièrement précis. Donc, il y a de fortes chances que je sois déçu d'en reboire un. Donc, je vais essayer de... Mis à part, si j'ai la certitude qu'il sera au même niveau, je ne vais pas m'ennuyer à boire moins bon. Voilà.
Ce que vous me dites là, ce n'est pas l'histoire de tout un chacun par rapport à son enfance. Moi, j'ai encore le goût du canard, du morceau de sucre que je trempais dans l'expresso de mon père. Ce n'est pas toujours le risque de devoir s'arrêter à une image figée, gustativement parlant, de peur de ne pas jamais la retrouver.
Oui, mais c'est pour ça que je l'ai gardé en mémoire et je suis un consommateur zappeur, je vais chercher d'autres goûts. Voilà, je viens de recevoir c'est amusant parce que c'est un client, il vient de m'apporter ses dernières récoltes de Blue Mountain et je pense qu'on va...
De la Jamaïque, hein, faut le dire.
Blue Mountain de Jamaïque. Voilà, Monsieur McIntosh qui est un propriétaire terrien là-bas, passionnant, voilà. Puis en plus, il a concédé de me faire des prix acceptables pour ce café de référence et de marque. Mais j'ai aussi une grande passion pour les geishas. Je suis allé voir dans les hauts plateaux du Panama, à côté du Vincent Barou. Si mes souvenirs sont bons, voilà. J'ai le souvenir d'une communauté. Moi, je pense qu'on ne peut pas détacher ce que l'on fait aujourd'hui de là où cela vient.
Et par qui ?
Des hommes et des femmes qui prennent soin de leur caféier, qui prennent soin de tout le process au niveau de l'hygiène, au niveau du séchage. On récupère aussi, au Costa Rica, on récupère aussi la cascara, c'est-à-dire la chair.
La cerise, quoi, le fruit.
Et la chair des cerises. Que l'on fait pasteuriser pour que nous ayons zéro problème. Voilà, et on fait une infusion de cascara, de cette chair, pour convaincre les amateurs de thé de boire des infusions de café. Nous faisons du café à la pression pour convaincre les amateurs de bière de boire du café. Nous faisons aussi du café infusé à froid pour convaincre les amateurs de whisky de boire du café. Donc on a un potentiel fort de développement pour convaincre des individus qui habitent sur cette planète de boire le café différemment.
Alain Ducasse, la cascara, le fruit du café, torréfié, infusé. Là, on se rapproche vraiment du café des origines, sur les hauts plateaux d'Éthiopie. Hein, parce qu'avant de torréfier le grain du café, on peut penser que les Éthiopiens, les ancêtres des Éthiopiens, mâchaient la cascara, mâchaient la cerise.
Très certainement. Mais en tout cas, on la torréfie pas, on la laisse sécher, normalement au soleil. Mais enfin, toute la cascara, normalement, ça retourne, ouais. Ça ne quitte pas le pays.
Ça fait de l'engrais, quoi.
Oui, ça ne sert à rien. Et c'est en allant voir au plus près, non pas au Laos, parce que je suis allé sur les plateaux des Bolovens, là, au Laos, pour voir les plantations de café, mais c'est quand j'ai vu qu'il ne faisait rien au Panama, là, sur ces hauts plateaux de cette chair séchée. C'est pas eux qui me la fournissent, c'est le Costa Rica, hein, puisque bon, ils ont été à l'écoute et je trouve que ce goût fruité, unique, hein,
c'est un peu acidulé, on pourrait dire que ça se rapproche du bissap, mais il y a ce côté acide un peu comme dans le bissap, dans le carcadet, quoi, dans l'hibiscus.
Oui, mais et cela me plaît. Et je crois même qu'on doit pouvoir, j'y ai pensé il y a quelques jours, on doit pouvoir le traiter comme un raisin ou comme une cerise mi-séchée, peut-être pour en faire des gâteaux ou des desserts d'accompagnement de ce cascara infusé à froid ou à chaud. Enfin voilà, la porte est ouverte, nous allons travailler comme d'habitude.
Donc Alain Ducasse et le café, c'est une histoire d'amour qui commence en fait presque.
Et qui commence, et puis en plus, je me suis entouré de bons et précieux collaborateurs. Olivier, mon directeur, est super. Veda, enfin moi, toute une équipe de jeunes passionnés, passionnants. Voilà, la route démarre et elle sera longue.
Eh bien, on lui souhaite à Alain Ducasse que la route du café soit longue. Nous, notre pause va être très courte et on se retrouve tout de suite pour le Paris Coffee Show.
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente
Sud Radio, Place du Marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud.
Allez, de retour au Paris Coffee Show, ce salon entièrement dédié aux professionnels et aux amateurs de café ici à Paris. Et on est avec deux grandes femmes du café, avec Anne Caron. Bonjour Anne.
Bonjour.
Et Muriel Vatel. Bonjour Muriel.
Bonjour.
Alors, Anne Caron, la brûlerie Caron, on connaît bien, c'est une maison connue. Et vous-même, vous avez un titre quand même de meilleure torréfactrice ou torréfacteur, on dit, de France.
J'aime bien dire torréfactrice parce qu'il n'y a pas assez de noms au féminin et ça rajoute une touche de féminité dans le monde du café.
Et Anne, elle n'est pas venue seule, elle est venue avec ses deux petits-os. Comment ils s'appellent, ces deux jeunes gens?
Roman et Evan. Roman a 4 ans. Roman a 6 ans, Evan a 4 ans, pardon, et c'est aussi deux passionnés de café. C'est
une... Ah oui, déjà ?
Déjà, bien sûr, mais c'est une histoire de passion, le café.
Oui, mais alors c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on peut donner du café aux enfants ?
Je dirais sporadiquement, et eux finissent, aiment bien finir mes tasses, les fonds de tasses du matin.
Parce que moi, c'est venu avec le canard, le fameux morceau de sucre dans le café. Je ne sais pas si vous faites ça avec eux.
Ah non, pas de sucre dans le café.
Non, pas de sucre dans le café, c'est là qu'on voit qu'on est chez les professionnels. Muriel Vatel, c'est la patronne des comptoirs Richard. Alors, on connaît le groupe Richard, qui évidemment est dans le café, mais jusque-là, j'ai envie de dire, jusqu'au bord de la tasse. Mais alors, le comptoir Richard, c'est une émanation, c'est la petite perle tournée vers le grand public et vers les cafés de spécialité.
Absolument. La maison Richard, c'est une maison depuis 1892, une maison familiale, qui a souhaité prolonger sa passion, son expertise du café depuis 20 ans avec les comptoirs qui donc transmettent depuis 20 ans à travers leur boutique aux particuliers leur passion du café, autour du café.
Alors c'est drôle parce qu'en fait quand on pense comptoir Richard, on imagine les Incs, là où est née en fait la maison Richard, hein, sur les cafés, et en fait le comptoir c'est le magasin.
Absolument. Le comptoir, c'est vraiment orienté auprès du particulier, avec des magasins de proximité, de torréfaction à Paris, donc qui torréfient et font découvrir des cafés découvertes.
Plein de crus, hein. D'ailleurs, il suffit de rentrer chez vous.
Voilà, on a une vingtaine de cafés vrac et des cafés découvertes qui viennent compléter cette offre. Voilà, on moue à la demande, on conseille, on accompagne le particulier pour la préparation du café, puisque le café, c'est la torréfaction, bien sûr, c'est la culture avant, c'est toutes ces étapes pour faire un bon café, mais c'est aussi la préparation dans la tasse, avant la tasse, de ce café, de ce bon produit. C'est finalement comme dans la cuisine, hein, vous sélectionnez les bons produits, mais après, il faut savoir les préparer, et donc comptoir participe à cette aventure.
Alors, on entendait Alain Ducasse dire globalement, moi je suis nul, mais je m'entoure des meilleurs. C'est un peu votre cas, vous n'êtes pas torréfactrice, vous, Muriel.
Alors moi, personnellement, je ne suis pas torréfactrice, mais je participe à une aventure auprès d'un grand torréfacteur, qui est la Maison Richard.
Aventure collective.
Et c'est une aventure collective, évidemment, chacun apporte sa brique.
Tandis que dans la Maison Caron, c'est Anne Caron avec son tout auréolé de son titre, mais il n'y a pas que ça, bien sûr, et surtout de son expertise en matière de café qui préside à la brûlerie, c'est-à-dire à la torréfaction des cafés qui sont vendus chez vous.
Oui, c'est une histoire de passion, comme je vous le disais. Et la torréfaction, c'est tellement passionnant. Parce que cuire le café, il y a cuire, et un cuisinier pourra vous le dire. C'est une question d'expertise. Et la transformation de ce produit, relever le niveau d'excellence de la profession, c'est quelque chose qui me passionne.
Vous venez sur le Paris Coffee Show qui, cette année, est ouvert au public. C'est quand même une grande nouveauté. Avant, c'était des rencontres vraiment professionnelles.
C'était un salon professionnel. Et cette année, on a pris la décision d'ouvrir au public puisque le public a de plus en plus d'attentes au niveau du café. Le public cherche à comprendre et à connaître ce produit. Jusqu'à présent, les gens subissaient le café. Aujourd'hui, ils ont envie de le découvrir. C'est pour ça qu'on l'a ouvert au public.
Voilà, ouvert au public, et on sent vraiment cette ambiance extrêmement conviviale du coup, parce que je pense que les torréfacteurs et tout le monde du café est en train de faire sa révolution, de sortir de sa brûlerie, de venir au devant de la scène, et il y a un contact avec le public qui est très privilégié.
Le café, il ne faut pas oublier que c'est la première boisson la plus bue après l'eau, et c'est un produit qui dans un pays de...
Plus que le thé, hein.
Plus que le thé, et c'est un produit qui, dans un pays de gastronomes, était méconnu, ce qui est complètement paradoxal. Aujourd'hui, le public s'intéresse au café, on sent qu'il y a des attentes, et c'est à nous, torréfacteurs, d'ouvrir nos boutiques et faire connaître ce monde.
On entendait Alain Ducasse dire que lui, il y est venu par la pâtisserie, puisqu'il a été pâtissier avant d'être chef. Et c'est vrai que souvent, le premier contact du café, en dehors du petit, on va dire, du petit noir du matin, ou la tasse ou le bol, c'est souvent par la gastronomie qu'on vient au café de spécialité, dans les restaurants, dans les grands restaurants.
Oui, c'était jusqu'à présent un produit qui était sous-employé, je dirais, en pâtisserie et en gastronomie, puisque souvent les pâtissiers travaillaient à l'époque avec des préparations industrielles, alors qu'ils choisissaient...
Il l'a dit, Alain Ducasse, il a dit Trablit, qui est l'extrait le plus vendu aux pâtissiers, malheureusement.
Malheureusement, parce que c'est un ingrédient, quand on commence à l'explorer et quand je parle de cet ingrédient au pâtissier, il découvre un monde puisqu'on peut infuser soi-même le café dans du lait, dans de la crème, on peut l'infuser à froid, on peut l'infuser à chaud, on peut choisir des origines. Il y a une variété qui était sous-employée jusqu'à présent et le monde de la gastronomie et le monde des pâtissiers commencent à découvrir le produit.
C'est important de sourcer, c'est même le premier travail d'un torréfacteur, c'est déjà d'aller chercher les bons grains là où ils sont.
Il y a toute une chaîne qui se passe derrière en fait, dans le pays d'origine. Et sourcer les cafés d'excellence, c'est notre premier métier. Et après, une fois qu'on a un super café, c'est d'en révéler le potentiel aromatique. On sous-estime ce qui se passe dans les pays producteurs. Pour obtenir un bon café, ce sont des cafés qui sont souvent cueillis à la main, sélectionnés cerise par cerise, car seules les graines matures vont pouvoir s'exprimer lors de la torréfaction et donner une bonne tasse.
Alors, est-ce que, comme Alain Ducasse le disait, lui il disait, la torréfaction trop poussée écrase tous les arômes. Il dit, j'aime les cafés assez peu torréfiés. Quel est votre cas, Anne Caron ?
Alors moi, je suis sur ce qu'on appelle une torréfaction intermédiaire, qui s'appelle la torréfaction robe de moine. Donc, trop clair, c'est trop acide. Trop poussé, c'est trop amer. Et tout l'art du torréfacteur, c'est de sortir le café juste au bon moment.
Vous aussi, c'est la voie du milieu, alors. C'est le zen du café.
Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce qu'il y a le moment où on sort le café et il y a la façon dont on apporte la chaleur au café. C'est comme une viande. Si vous la saisissez très chaud au départ ou si vous la mettez dans l'eau bouillante, vous n'aurez pas du tout les mêmes goûts. Et le métier du torréfacteur, c'est finalement de contrôler la chaleur qu'on apporte au grain pour en révéler le potentiel.
Alors, au comptoir Richard, vous avez une belle gamme, évidemment, et donc une gamme de cru et une gamme de torréfaction aussi. On peut proposer sur les mêmes crus des cafés plus ou moins brûlés.
Alors, plus ou moins torréfiés, absolument.
Vous me rectifiez, j'ai dit brûlé, ça ne vous plaît pas.
Ça m'a un petit peu désorienté. C'est vrai qu'on est, dans le prolongement de ce que vient de dire Anne, la torréfaction et la préparation. Après, enfin, tout doit être relativement cohérent. C'est-à-dire qu'il y a des cafés qui sont une torréfaction trop claire, va être plus particulièrement adaptée à des filtrations douces avec certains matériels. Des torréfactions torréfactions plus poussées peuvent apporter à un assemblage expresso, par exemple, quelque chose de plus, une préparation expresso, un rendu en tasse optimum. Donc la torréfaction, c'est aussi va rejoindre aussi un mode de préparation. Il y a une expertise de torréfacteur, mais il y a plusieurs niveaux de torréfaction selon l'origine aussi. Il n'y a pas une torréfaction unique. Et c'est l'art du torréfacteur. C'est vraiment d'adapter sa torréfaction au cru, à la densité du grain, comme une cuisson effectivement de viande ou de poisson. Je dirais même de poisson, parce que la cuisson est vraiment compliquée.
C'est bien qu'on parle cuisson d'ailleurs, parce que ce goût torréfié, ce goût caramélisé, c'est bien la réaction de Maillard qu'on trouve sur un poulet rôti ou sur du pain, Anne Caron.
Tout à fait, la réaction de Maillard, en fait, le café, c'est une graine à la base qui contient des protéines et beaucoup de glucides, presque 60% de glucides. Et c'est l'interaction entre tous ces composants, la façon dont ils se font, se défont, disparaissent, apparaissent, qui va donner le goût du café. Donc il y a bien sûr la réaction de Maillard, qui est la réaction principale. Il y a aussi la pyrolyse et la dégradation pyrogénée en fin de cuisson.
Comme dans votre four ?
Exactement, comme dans le four. En fait, si on pousse la torréfaction jusqu'au bout, on obtient du charbon.
Bien sûr, hein. Comme de la farine, comme on le fait évidemment pour développer, je dirais, les arômes, mais jusqu'à un certain point. Alors, Anne Caron, avant de se quitter, parce qu'il faut que j'aille faire un tour dans le salon encore, quel est votre café du moment ? J'ai pas envie de dire votre café préféré, mais en ce moment, vous buvez quoi ? Vous aimez quoi ?
Alors, l'originalité de la Maison Caron, c'est qu'on propose qu'un seul café. Mon père a choisi de faire un seul café et le meilleur. Donc, ça fait 30 ans. Qu'on torréfie le même café. C'est un assemblage de 4 grands crus d'Arabica, Brésil, Guatemala, Nicaragua et Mocassi d'Amo d'Éthiopie. Donc je dirais que je suis un peu chauvine, donc mon café du moment, c'est le café Caron.
Et vous, Muriel Vatel, le matin, en arrivant au comptoir Richard, c'est quoi votre petit coup de cœur ?
Alors, moi, j'ai une préférence également pour les mochas, mais je varie pas au quotidien, mais peut-être de façon hebdomadaire, ma découverte des cafés. On partage ces découvertes tous les mois au comptoir, d'ailleurs. Là, on a 3 nouveaux cafés qu'on fait découvrir sur le salon, d'ailleurs. Un café qui nous vient du Pérou, un terroir formidable, un du Panama et on a un Indonésie.
Vous allez m'emmener les goûter alors ?
Absolument.
Merci mesdames, et merci messieurs, et merci tous les spécialistes du café qui nous ont régalés et qui m'ont appris des tas de choses. La semaine prochaine, on en apprend d'autres. On se retrouve à 10h, place du marché, dimanche prochain, avec un sujet gourmand, salivant. Vous savez bien, c'est ma spécialité. Bonne semaine sur Sud Radio.
Sud Radio, place du marché, dimanche 10h-11h.
Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants.